Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Florian Delorme.
Place à notre question du jour, le président Emmanuel Macron et son homologue italien Sergio Mattarella se retrouvent aujourd'hui à Amboise à l'occasion de la commémoration des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. On sait que les relations entre Paris et Rome sont assez tendues depuis plusieurs mois. On se souvient notamment du rappel de l'ambassadeur français pour consultation après la visite d'un membre du gouvernement italien à des gilets jaunes. La provocation de trop pour Paris. Léonard de Vinci peut-il réconcilier la France et l'Italie? Bonjour Marc Lazare.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur en histoire et sociologie politique à Sciences Po et directeur du groupe de recherche pluridisciplinaire sur l'Italie contemporaine au Centre de recherche internationale. Il y a presque deux mois, c'était le 4 mars dernier, Emmanuel Macron avait lancé un appel à la réconciliation à la télévision italienne, invitant officiellement son homologue à venir célébrer les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Est-ce que cette venue du président italien, c'est le signe que le gouvernement italien est disposé à apaiser les tensions, ou est-ce que ce geste du président n'est pas forcément représentatif des efforts que, notamment, Matteo Salvini est prêt, lui, à concéder?
C'est incontestablement un geste du président de la République et c'est évidemment un petit signe, même un signe important par rapport à son gouvernement, et vous l'avez cité du fait de l'attitude du vice-président du Conseil ministre de l'Intérieur Matteo Salvini et d'un autre vice-président du Conseil, c'est-à-dire le leader du mouvement 5 étoiles Luigi Di Maio, qui était effectivement venu en France dans une visite qui a été considérée comme comme une sorte de geste d'agression diplomatique, puisque c'était un geste de soutien aussi aux Gilets jaunes. Le climat s'est vraiment apaisé, y compris et justement par le dialogue qui a commencé à s'instaurer entre le président de la République française Emmanuel Macron et le président de la République italienne. Vous faisiez allusion à l'allocution télévisée, ou plus exactement à l'interview télévisée qu'a donné Emmanuel Macron en Italie, mais ça a été surtout un coup de téléphone qui a été donné par l'Élysée au Quirinal, c'est-à-dire là où réside le président de la République italienne, pour essayer d'apaiser les tensions.
Si on regarde justement les raisons de ces tensions, Marc Lazare, les premières tensions entre Paris et le gouvernement italien, elles remontent à l'été dernier, lorsqu'Emmanuel Macron avait dénoncé le cynisme et l'irresponsabilité du gouvernement italien qui avait refusé d'accueillir le navire Aquarius avec ses plus de 600 migrants à bord. Matteo Salvini avait exigé carrément des excuses, il avait menacé d'annuler la visite du Premier ministre italien Giuseppe Conte, enfin le président du Conseil, qui avait finalement eu lieu. Mais c'est donc cette question migratoire qui a mis le feu aux poudres. Mais est-ce que finalement les positions sur l'immigration du gouvernement italien et celle du gouvernement français sont si différentes que cela? Derrière les discours, derrière les anathèmes, au fond, est-ce que c'est si différent?
Vous avez raison, c'est vrai que c'est un des sujets de contentieux. Il faut toujours rappeler aux auditeurs que l'Italie a subi une véritable vague d'arrivées, un flux de migrants sur ses côtes, et que l'Italie, y compris avant la formation de ce gouvernement, donc avant le 1er juin 2018, à l'époque où il y avait un gouvernement de centre-gauche, les gouvernements italiens se sont sentis abandonnés par les pays européens et en particulier par la France. Et il faut dire que la France, à l'époque de François Hollande et Manuel Valls, et puis depuis la présidence Macron, a littéralement fermé ses frontières, parfois repoussé dans des conditions absolument scandaleuses les migrants en Italie, et ça a alimenté justement la controverse. Donc vous avez raison, d'une certaine façon, au-delà de la rhétorique, il y a une politique commune, mais qui justement n'est pas coordonnée. Mmh. Et c'est un des sujets très importants de contentieux, qui alimente aussi, il faut le dire, une sorte je vais peser mes mots, un sentiment anti-français qui va bien au-delà du gouvernement et qui est répandu dans toute une partie de l'opinion italienne, y compris celle qui est hostile à ce gouvernement et qui veut affirmer sa solidarité avec les migrants.
Mais d'où vient ce sentiment anti-français? Je mets de côté le gouvernement italien. Qu'est-ce qui se passe en Italie? Qu'est-ce que les Italiens reprochent aux Français?
Je crois qu'il y a au moins, trois sujets dans l'actualité et puis un vieux contentieux historique. Les trois sujets d'actualité, c'est le premier, on vient d'en parler, c'est l'immigrant. Le deuxième, c'est la Libye. Alors, pour la France, ça paraît quelque chose de très lointain, mais pour l'Italie, c'est très proche. Et l'Italie accuse la France de faire des manœuvres qui sont contre ses intérêts en Libye, y compris actuellement, lorsque le maréchal Haftar est en train de marcher sur Tripoli. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et de ce point de vue-là, le gouvernement l'utilise beaucoup à l'attention de l'opinion publique italienne. Le troisième point, c'est un sujet économique, puisque depuis quelques années, beaucoup d'entreprises françaises se sont implantées en Italie, ont repris des groupes qui symbolisaient d'une certaine façon le Made in Italy, et au lieu de s'interroger sur les défaillances justement de ces entreprises qui ont permis leur rachat de ces mêmes entreprises par des compagnies françaises, ben, il y a l'idée de l'impérialisme français qui s'est répandu. Et puis, bien sûr, il y a l'histoire. l'histoire, ça compte toujours, une histoire qui s'enracine depuis l'unité italienne, avec des moments réguliers de tension, avec ce sentiment, j'allais dire, d'affection, pour ne pas dire d'attraction, voire d'amour à l'égard de la France, et d'hostilité liée à ce qui nous est reproché, une forme d'arrogance, une forme de pays donneur de leçons. C'est pas le seul pays hors de France qui a ce sentiment par rapport à nous, et c'est très ancré en Italie. Et cette ambivalence, je vais employer des mots beaucoup trop forts, mais amour et je dirais pas haine, mais énervement contre la France se répand de plus en plus. Vous savez, il y a des enquêtes qui le montrent. La France était considérée comme un des pays les plus proches de l'Italie, et aujourd'hui, c'est un des pays les plus lointains pour l'opinion italienne.
Mais alors, justement, vous parlez carrément d'amour entre les Français et les Italiens. Quand on est en France et qu'on parle de la crise européenne, on évoque beaucoup le duo, voire même le couple franco-allemand. D'ailleurs, on parle pas de couple du côté de l'Allemagne, mais du côté de la France, on en parle. Est-ce que ça, c'est aussi un élément peut-être qui joue dans ce sentiment anti-français, c'est-à-dire le fait qu'au fond, les Français compteraient trop sur les Allemands et pas suffisamment sur l'Italie pour relancer cette Europe? Pour le dire autrement, au fond, cette crise entre la France et l'Italie, est-ce que c'est pas d'abord une crise entre l'Italie et l'Europe d'une certaine manière?
Oui, c'est vrai, et l'Italie est exaspérée à l'égard de l'Allemagne comme de la France, justement de ce qu'on a appelé le moteur franco-allemand. Disons que les plus pro-européens en Italie considèrent que c'est absolument indispensable pour des raisons historiques, politiques et économiques qu'il y ait justement ce duo franco-allemand qui joue un rôle essentiel en Europe, mais il y a toujours le sentiment d'une sorte de mise à l'écart de l'Italie qui ne compte pas, et là aussi ça rentre dans une longue perspective historique. Et alors, à l'égard de la France, effectivement, la France, lorsqu'elle a des problèmes avec l'Allemagne, et il y en a de manière récurrente, tout à coup se souvient qu'elle a un allié, et c'est l'Italie. Donc elle se retourne vers l'Italie pour mieux relancer son rapport avec l'Allemagne. Donc ça, c'est très très mal perçu par Rome et plus généralement par l'Italie. Mais ajoutons cependant un point très important, parce que là on fait un tableau noir des relations franco-italiennes, mais attention, nous sommes les deuxièmes partenaires économiques et commerciaux. Attention du point de vue culturel, bien évidemment, du point de vue de l'enseignement, du point de vue d'éducation, du point de vue de la recherche, du point de vue des relations entre les intellectuels. Évidemment, l'Italie est un des pays les plus attractifs pour la France et vice-versa.
Donc c'est une très bonne idée que d'essayer d'apaiser les tensions par le truchement justement de cette politique culturelle et notamment par cette figure de Léonard de Vinci partagée par la France et l'Italie.
Oui, et d'ailleurs, évidemment, aujourd'hui, il va y avoir cette rencontre très symbolique entre les deux présidents de la République devant des centaines de jeunes Français et Italiens qui seront réunis, et ça sera un message non pas simplement d'un rapport bilatéral, mais d'une relation franco-italienne en direction de l'Europe et en fonction, justement, pour honorer la mémoire de Léonard de Vinci, justement pour célébrer l'importance de la culture dans nos deux pays. Et il faut savoir que les deux ministres de la Culture se sont réunis, ont trouvé un accord, ont enterré un peu la petite hache de guerre qui avait été sorti justement sur ces commémorations de Léonard de Vinci, qui avait un peu, disons, envenimé les relations entre la France et l'Italie. Et puis surtout, Emmanuel Macron a invité le président Mattarella pour une visite d'État. C'est donc une autre forme protocolaire très importante qui se déroulera à l'automne. Et il y aura sans doute d'autres gestes, mais aussi d'autres polémiques, surtout dans la perspective des élections européennes. Ça ne m'étonnerait pas que Matteo Salvini et Luigi Di Maio lancent quelques piques contre Emmanuel Macron d'ici le 27 mai.
On y revient. Justement. Merci Marc Lazard. Je rappelle que vous êtes professeur en histoire et sociologie politique à Sciences Po.